RCF.
Un parcours qui sillonne sur des sentiers parfois difficiles entre la vigne, les conversions, l'enseignement. Marie-Line Chomel, vous êtes notre invitée sur RCF aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Merci
Jean-Marie.
D'être venue dans notre studio, d'avoir quitté momentanément les classes et les vignes pour venir nous parler de votre parcours. Un parcours avec un début ou la page 1 qui commence à Marseille.
Oui, c'est ça, la page 1 qui commence à Marseille. Donc je suis née il y a 53 ans à Marseille, d'une maman d'origine piémontaise et d'un père d'origine alsacienne. Donc c'est un petit mélange peut-être d'étonnant, à vous de voir. Donc j'ai grandi dans cette ville. Donc je suis allée à l'école là-bas et j'ai évolué dans un milieu croyant, évangélique, hein, puisque ma mère fréquentait les assemblées de Dieu et je l'y accompagnais bien volontiers une longue période de ma vie, sur plusieurs décennies.
Alors, assez vite, vous vivez une séparation, puisque votre père d'origine alsacienne ou allemande quitte le foyer et vous êtes toute petite.
Oui, je suis toute petite. J'ai environ 6 mois, d'après l'histoire familiale. Mon père, papa habitaient bien loin, hein, à 2-3 pâtés de maison de chez nous. Mais ma mère, qui est une femme extrêmement active, marchande bien et qui a une sorte de... Oui, de revanche à prendre sur une enfance assez pauvre dans le Piémont, chasse quelque part mon père de la maison et je reste donc avec elle et éduquée par elle.
Et c'est aussi comme ça que petit à petit vous prenez connaissance des textes de la Bible ?
Oui, c'est vrai que j'étais vraiment accro, on peut dire, chacun son addiction. Moi, c'était plutôt à la parole de Dieu quand j'étais enfant. Et c'est vrai, depuis mon tout jeune âge, je me vois lire la parole de Dieu, prier, aller au caté et aller en colonie de vacances évangélique dans les Alpes. Et pour moi, c'était une réelle nourriture. Jésus-Christ est devenu mon ami depuis cet âge-là.
Et il l'est toujours.
Et il est toujours, exact.
On en reparlera aussi dans quelques instants. Vous dites que votre maman était quelqu'un d'assez autoritaire, marchande de biens, qui avait eu elle-même une enfance peut-être un peu compliquée. Vous pensez que votre mère peut-être n'a pas été très maternelle avec vous, c'est ça ?
Oui, ça peut même être un euphémisme. C'est vrai, ma mère était... elle partait, elle me laissait par exemple seule à la maison en étant en bas âge. Et j'ai eu une enfance assez dure. Mais je ne m'en rendais pas compte puisque c'était mon seul vis-à-vis. C'était comme ça et j'avançais. Donc ce que j'adorais, c'était l'école. C'était l'école, c'était être à l'extérieur de la maison, c'était être en vacances. J'étais une excellente petite élève, très résiliente et très disciplinée, très gentille, très effacée en classe. Mais à la maison, c'était plutôt, si c'était pas des mauvais traitements physiques, encore que, c'était au moins des mauvais traitements psychologiques et des paroles très dures, qui me rabaissaient et qui étaient un jour, oh, tu es merveilleuse, et le lendemain, oh, mais tu es un petit monstre, ou rien de bon ne t'arrivera dans la vie. Ce qui était assez antinomique avec une femme de foi qui allait à l'église, qui priait, qui était bien en cours auprès du pasteur. Et pour moi, en tant qu'enfant, c'était très perturbant.
On a diagnostiqué une maladie à votre maman, c'est ça ?
Oui, aujourd'hui, elle est très âgée. Elle a plus de 85 ans. Et effectivement, donc, on lui a diagnostiqué la Alzheimer, malheureusement, et une forme de schizophrénie, de bipolarité. Enfin, elle est... son enfance la rattrape malgré tout et le fait qu'elle n'ait jamais eu voulu suivre des soins. Là, elle est pervers narcissique également, ça a été diagnostiqué. Mais sur le tard, très très tard.
Et vous allez aussi faire des études, ce qui vous éloigne aussi peut-être de ce domicile. Vous partez à Grenoble notamment.
Oui, j'ai beaucoup bougé. J'ai commencé mes études à Aix-en-Provence, qui est une ville magnifique, que j'aime énormément. J'y retourne, mon frère y vit, et je suis ensuite allée poursuivre mes études à Grenoble, et j'ai fini à Strasbourg, qui était la ville d'origine de mon père, où j'étais également extrêmement heureuse. Et c'est vrai que ces études de droit, ben, le droit, c'est la justice, c'est peut-être une justice à rétablir d'ordre familial et plus peut-être. Donc je me suis épanouie dans ces études de droit, et en parallèle, j'ai aussi fait un master en sciences politiques, que j'ai vraiment adoré. Ça m'a nourrie en fait, nourrie en profondeur et j'avais toujours en parallèle bien sûr ma foi et une certaine rectitude morale et intellectuelle.
Si je reviens un tout petit peu en arrière, à l'âge de 9 ans, vous priez très fort Dieu pour qu'il vous donne un petit frère. Et vous êtes exaucée.
Oui, 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 je suis exaucée. Ma mère a refait sa vie. J'ai la joie et la chance d'avoir un petit frère qui s'appelle Pierre. Nous avons 9 ans d'écart, donc. Et pour moi, c'est une bouffée d'oxygène, un soleil dans ma vie. J'aime énormément ce petit frère et je reste, bien sûr, en contact et proche, même s'il est loin. Sa fille et ma filleule, enfin voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi la foi, mais qui a aussi une éducation croyante. Mais je pense que peut-être, ma mère et son attitude ne lui a pas donné plus envie que cela de poursuivre. Mais dans tous les cas, il a épousé une femme très croyante et ses enfants, enfin, il a gardé cette éducation judéo-chrétienne, je dirais, et il l'a transmise.
Alors, les études, finalement, vous ouvrent un petit peu une bouffée d'air. Et donc, vous le disiez, vous êtes allé à Aix, puis à Grenoble, et puis à Strasbourg. Et tout au long de vos études, vous rencontrez, vous croisez aussi des communautés chrétiennes ou des gens qui sont engagés dans ce monde chrétien qui, encore une fois, vous tirent vers votre foi.
Oui, c'est à l'occasion d'un petit groupe de prière dans une petite chapelle de façon improbable dans l'Ain. Je me suis retrouvée avec la communauté du Chemin Neuf, que je ne connaissais pas puisque étant protestante d'origine. Et j'ai trouvé ces gens extrêmement chaleureux, vivants, accueillants. Et ils ont fait le pendant entre un monde évangélique avec une communauté catholique œcuménique qui a pris ce côté charismatique tout en gardant le dogme catholique et qui me correspondait, qui ont fait un... chez moi, qui ont produit un basculement et un attrait pour cet univers catholique que je trouvais plus chaleureux, plus aimant et plus en vérité. Je suis tombée dans une petite communauté vraiment extra et j'ai cheminé avec eux et c'était vraiment chouette. Et j'ai continué, voilà, de cheminer avec cette communauté.
C'est aussi à ce moment-là que vous rencontrez votre mari, Rémi.
Oui, Rémi. Alors, c'est aussi une réponse à mes prières, hein, parce que j'étais plutôt jeune. Enfin, je m'estimais vieille, tout est relatif. Hein. J'avais passé les 25 ans et je me disais, bon, je vais finir célibataire, je vais partir missionnaire. Qu'est-ce que je vais faire avec ces études de droit? J'avais tenté d'être avocate et bon, c'était un peu le vœu de ma mère, donc j'avais gentiment échoué. Mon frère a quand même réussi, donc c'est OK. Il y avait un avocat dans la famille et moi je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Et j'étais allée au centre chrétien universitaire en étant au foyer à Grenoble. Pareil, on était une petite communauté, on s'appelait le Club des 5. Après on a fini en duplex à 5, c'était extra, on se revoit toujours, on se fait des bouffes. Enfin, on est restés unis et liés et il y a 25 ans de cela. Et il y avait une rencontre interrégionale pour les CCU, Drôme, Ardèche, Savoie, Haute-Savoie. Et on s'est retrouvés à Orcival. Et il se trouvait qu'il y avait un jeune homme, là, un grand brun, musclé, rigolo, souriant, pétillant, bondissant. Et il était mon chef d'équipe. Et on a échangé nos numéros de téléphone sur un concours heureux de circonstances. Et on est restés amis, en fait. On a cheminé, on a... Voilà. Et moins d'un an après, je l'épousais, en fait.
Voilà, un jour parfait. Une transition aussi avec la pause musicale que vous avez choisie. Vous avez choisi Perfect de Ed Sheeran. Pourquoi cette chanson ?
Je ne vais pas m'étendre sur les paroles. Elle est douce et elle m'émeut énormément. Voilà, pour la voix magnifique aussi de Sheeran.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I. Song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it.
Darling, you look perfect tonight. La foi se raconte dans Témoins.
Toujours sur RCF avec notre invitée aujourd'hui, Marilyn Chaumel, qui nous raconte son parcours depuis Marseille en passant par Aix, par Grenoble, par Strasbourg. Et puis nous sommes dans l'Ardèche aujourd'hui pour parler de ce parcours. On s'est quitté, Marilyn, alors que vous veniez de vous marier avec Rémi. Alors, on a l'impression, quand on vous écoute, que vous êtes passé par pas mal d'étapes dans la foi. Vous êtes parti de la communauté évangélique, puisque c'était la communauté de votre maman. Et puis ça continue ensuite.
Oui, voilà, je suis partie donc de la communauté évangélique, comme vous dites, pour basculer et me rapprocher de la communauté du Chemin Neuf, donc une communauté œcuménique. Après mon mariage en 1999, nous étions sur Grenoble, donc j'ai exercé en tant que juriste et mon mari en tant qu'instituteur. Et après avoir cherché à nous installer définitivement dans la vallée du Grésivaudan, égard au prix de l'immobilier, nous avons immigré dans le sud. Tout proche, dans mon village d'origine, qui est un petit village en banlieue d'Aix-en-Provence. Et la communauté du Chemin Neuf était un peu éloignée de nous. Donc par proximité et par affinité, nous avons rencontré la communauté œcuménique charismatique qui est Fondatio, si vous connaissez, qui est un peu le pendant de la communauté du Chemin Neuf, qui fait le pendant entre la psychologie et la Bible, qui, leur charisme, c'était d'accompagner les adolescents et les jeunes. Ils ont commencé comme cela, et s'étant rendu compte que, eh bien, il fallait peut-être monter en amont et prendre la main des parents, eh bien, ils ont développé tout un accompagnement de fraternité, de couple, pour, discuter de la parentalité et aider les parents. Tout en étant assez œcuménique nous-mêmes, nous allions à une paroisse à Aix-en-Provence, Pont d'Arc, et nous allions aussi au temple protestant. Alors on allait là parce qu'on avait des affinités, soit c'était une communauté qui le tenait, soit c'était un pasteur qui était humain, sensible et accessible. Et nous avons donc rencontré les jésuites que nous n'avons jamais perdu de vue, puisque le père Joseph Traban, qui m'a mariée, est un ami intime. Et là, nous avons commencé sur plusieurs années avec toute une équipe à accompagner des couples en faisant Alpha Couple, qui s'appelait à l'époque Elle et Lui. Et donc, sur plusieurs années, c'était vraiment une période bénie et heureuse où moi, je me suis sentie utile. Je le faisais avec Rémi. On avait des dizaines de couples. C'était un cadre magnifique.
Comment vous faites pour revenir, du coup, dans la Drôme ?
Ah. Alors ça, c'est le storytelling du petit domaine familial. En fait, c'est vrai, quand on se marie, on le sait pas toujours, mais on épouse aussi la belle famille, le père et les parents donc de Rémi, qui étaient des petits agriculteurs. Le père travaillait aussi à la SNCF et à 16 heures, eh bien, il avait un petit domaine, il faisait un petit peu du vin, mais où il a eu vendu ses raisins, mais c'était vraiment anecdotique. Il recherchait pas ni la rentabilité, ni être chef d'exploitation. Il a dit à son fils, ben écoute, tu vois, là j'arrivant, mes doigts se recroquevillant, mon petit domaine de 3 hectares en colline, vivotant, je pense que je vais vendre. Est-ce que tu es intéressé? Est-ce que tu veux que je transmette l'héritage familial? Ou bien est-ce que tu restes directeur d'école et dans le sud de la France? Et là, Rémi, donc... a réfléchi et il a dit non, je ne veux pas que ce petit patrimoine familial qui est depuis X générations et plus de 6 siècles dans la famille soit délapidé. Il a pris son courage à deux mains, il a validé un diplôme d'œnologue à la faculté de pharmacie de Montpellier et il a repris les 3 petits hectares de vignes de son papa et l'aventure a fait que nous avons immigré du sud de la France, dans la Drôme, à Croz-Hermitage.
Et donc, vous voici, Rémi qui se transforme de directeur d'école en vigneron.
Exactement, qui se transforme en directeur d'école
et vous,
en vigneron.
À ce moment-là, vous faisiez quoi comme activité ?
Alors, moi, j'étais enseignante à plein temps. J'avais déjà 3 jeunes enfants, Nathanaël, Timothée et Ruben. Ruben étant tout petit, il avait 2 ans et demi. Et nous sommes arrivés ici. Alors, pour moi, ça a été un peu un choc thermique. Pourtant, je m'adapte et j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé à l'étranger, etc. Mais là, vraiment, c'était un peu raide. On a eu la chance d'arriver en 2011, il faisait moins 15. Bon, là, avec le changement climatique, il n'y a aucun risque. Hein. Mais je me rappelle, on avait acquis une vieille ferme plus ou moins cracra, tout à refaire. Et les toilettes, comme à l'ancien temps, étaient à l'extérieur. Tout était gelé. C'était quand même assez délicat et difficile, très très particulier. Et mon mari, en plus, travaillait encore en tant qu'instituteur. Il se formait encore et il créait l'entreprise. Donc pour lui, c'était je pense qu'il doit pouvoir travailler 20 heures par jour, ce qui est pas toujours raisonnable. Mais là, c'était le cas et ça a été une période difficile. On en est sorti et riche aussi, puisque j'ai immigré, j'ai immigré de la grande ville à un petit village. Et là aussi, c'était un arrachement. Je pense, une femme de la ville. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je n'y retournerai. Ça m'a pris quelques années, j'avoue. Mais je suis extrêmement heureuse de vivre à la campagne et d'avoir comme voisin des petites bêtes, des grandes bêtes et la nature. Et voilà, quelque chose d'extrêmement paisible.
Alors, on va reparler de tout ça dans quelques instants. Vous êtes venu avec une seconde pause musicale, Les Frangines, Donnez-moi.
Oui. Alors, Donnez-moi, j'adore Les Frangines. Je trouve qu'elles sont gays. Je suis un petit peu féministe sur les bords, donc ce sont des femmes, mais les mettre en valeur, en exergue, je trouve que c'est chouette. Et Donnez-moi, oui, Donnez-moi et Donnez aux autres. Je pense que l'essentiel demeure l'amour de soi et l'amour des autres. Et c'est un vrai challenge, un vrai défi, et je trouve leur chanson magnifique.
J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été, donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, ouais. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont dérisoires.
Témoin, quand la foi se raconte.
Avec Marilyn Chomel qui nous raconte sa vie de foi et sa vie tout court, qui est partie de Marseille avec une maman pas très aimante, un peu avec une maladie qui a été diagnostiquée un peu plus tard. Et puis l'arrivée d'un petit frère et puis des études qui fonctionnent bien avec un groupe d'amis qui marche bien. La rencontre avec son mari Rémi, une sorte de Superman qui travaille 20 heures par jour, qui ne prend jamais de vacances ou très peu. Dans cette troisième partie, Marilyn, on va parler, eh bien effectivement, on a l'impression, pendant votre parcours, toujours été entre psychothérapie et foi. Et vous avez rencontré quelqu'un qui était psychothérapeute chrétienne, qui vous a beaucoup aidé.
Oui, c'est cela. En fait, j'avais 24 ans, j'étais en fac de droit et je crois que j'avais redoublé une année. Et pour moi, c'était une sorte d'effondrement. En étant une très bonne élève, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'ai décidé de partir à Strasbourg. Et là, j'ai rencontré une dame, Anne-Marie, qui était extra, dans une église donc protestante et non plus évangélique, donc quelque chose d'un peu plus, je trouve, de mon point de vue, carré. Et cette femme, il se trouve que j'ai été sa première patiente. Elle avait, elle travaillait avec l'analyse transactionnelle, qui est une forme de psychologie comportementale, voilà, qui est issue un peu de Freud, mais qui est moins... voilà, vous faites pas une analyse pendant 25 ans. Et elle m'a énormément aidée. J'étais à Strasbourg, donc je suivais ma formation. J'y étais bien. C'était une ville extrêmement agréable quand on est étudiant. Et cette femme, eh bien, elle m'a vraiment fait sortir, des conséquences de la dépression, et deux, de pointer, voilà, cette histoire, cette enfance, de façon à... Il y a des paroles dans la Bible qui me marquent, comme les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu les dents cariées. Je trouve qu'au niveau générationnel, on peut aller voir ce qui s'est passé de nos ancêtres qui eux-mêmes ont été victimes d'une histoire, d'une enfance et qui inconsciemment nous ont transmis des blessures et nous nous sommes adaptés à eux avec un comportement qui était pas ajusté et qui peut nous mettre en souffrance plus tard. Donc je suis allée me mettre en vérité. C'est la vérité nous rendra libres. Cette parole du Christ me parle tout particulièrement à ce niveau-là. Et je me suis dit, il fallait vraiment avoir du courage parce que c'était difficile. Je me revois avec ma petite voiture. J'avais une toute petite voiture, une petite Austin. Et j'allais, il y avait au moins une demi-heure de route entre mon petit appartement étudiant, mon petit studio et sa maison qui était à l'extérieur de Strasbourg. Et à chaque feu rouge, je me dis non, je fais demi-tour, je n'y vais pas. C'était vraiment un combat. C'était de l'ordre du spirituel, de l'ordre du psychologique. C'était un vrai challenge pour moi. J'étais très jeune et j'avais 24, 25 ans. Bien pour aller vers plus de vie. Et je me suis dit, je vais choisir la vie. Ce que j'ai fait plus tard en... pas bien plus tard, en suivant les sessions Bethesda de Simone Paco. Et voilà.
Très important pour vous, vous pouvez nous en dire un mot peut-être?
Oui, alors Simone Paco était une femme avocate parisienne, catholique, extrêmement engagée et croyante, qui a écrit plusieurs livres qui sont un petit peu ses enfants. Et elle a commencé par le premier, qui est l'évangélisation des profondeurs. Et elle a mis... sa compétence au service d'une association qui s'appelle Bethesda, qui est encadrée par des prêtres, des religieuses, des psychologues, des personnes qui accompagnent pour amener à une guérison intérieure ou au moins une amorce de compréhension de soi pour un mieux-être au quotidien des gens.
Qui existent encore. Hein,
qui existent encore, qui se font à Paris, qui se font en Suisse et qui se font plus proches de nous à Bivier, en banlieue de Grenoble. Et c'est vraiment vivifiant, c'est en douceur. Enfin, moi, ça a été. Il y a eu un avant, un après dans ma vie.
Un autre livre aussi qui vous a aidé, c'est le livre dont vous avez entendu parler sur RCF d'ailleurs, de Mathilde François, qui s'appelle De la maltraitance à la liberté, qui vous a permis aussi peut-être de mettre des mots sur ce que vous aviez vécu, c'est ça?
Oui, j'ai entendu. Donc, apparemment, ce serait RCF National. Il y a juste avant le Covid, une jeune femme qui témoignait. Et c'était vraiment. Poignant et je l'entendais parler, je me suis dit mais c'est fou, elle raconte ma vie, elle raconte mon histoire, cette femme, c'est extraordinaire. Par mail, après je suis rentrée en contact avec elle et elle habite en Amérique du Sud. Pareil, elle a eu la chance, la malchance, je sais pas trop comment dire, d'avoir des parents qui étaient maltraitants et elle s'en est sortie et son témoignage était vraiment lumineux et je me suis dit waouh, extraordinaire. Donc... oui, ça m'a touchée en fait, ça m'a touchée et ça m'a rejointe, effectivement.
On revient dans la Drôme, sur votre petite colline avec vos vignes, et on a dit tout à l'heure que vous aviez quatre fils, et ces quatre fils, dont trois sont allés dans le sud de la France, vous m'avez dit, déplacé. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une maman
oui.
qui n'a pas eu de modèle idéal de maman quand on devient maman? Est-ce que c'est compliqué à vivre? Est-ce que ça se fait naturellement?
Oh non, l'instinct maternel, je pense que c'est un mot. Hein, je pense que ça se cultive et ça s'acquiert, de mon point de vue. Alors mon premier enfant, c'était extraordinaire. J'étais super contente. Le problème, c'est qu'il aurait bien aimé être fils unique. Donc lui a eu beaucoup de mal à accueillir le deuxième.
Ça, c'est Nathanaël.
Nathanaël. Donc quand Timothée est arrivé, c'était, je pense, le ciel lui est tombé sur la tête. Donc une jalousie féroce, mais moi je m'étais pas vraiment rendu compte. Et c'est ça qui déplace, c'est-à-dire on doit s'adapter à ses enfants, s'adapter à leur personnalité, peut-être aussi à leur questionnement. Et quand on n'a pas eu de modèle maternel, ni paternel d'ailleurs, enfin moi j'ai pas vécu avec mon père, même si j'étais proche, hein. Ben, on est vraiment démunis, c'est... on est un peu comme des martiens qui arrivent sur Terre. Donc, on fait des erreurs, on fait des bêtises éducatives, on reproduit des choses. On se dit non, jamais j'aurais fait un truc pareil. Donc, du coup, je suis allée chercher de l'aide. Et je pense qu'avec mon quatrième fils, Alban, j'ai pas reproduit les erreurs. J'ai grandi entre-temps, donc j'ai acquis 10 ans d'expérience. J'ai grandi, j'ai mûri, je me suis très certainement apaisée. C'est ce que me disent eux-mêmes mes fils. Hein. Je ne vais pas m'envoyer des fleurs parce que... Des fois, mes élèves et mes étudiants me disent « Oh, madame, vous êtes fantastique ». Ils sont un petit peu hypocrites, mais je leur dis « Non, non, je sais que je ne le suis pas. J'ai 3 adolescents à la maison. J'ai aucun doute. » À relativiser, à mettre de la distance, je suis quelqu'un d'assez vif, avec les défauts qu'il y a avec ça. Je peux me mettre facilement en colère. Je gère pas tout, mais mes émotions, c'est pas toujours... Je suis pas tout à fait zen.
D'autant plus intéressant que vous êtes enseignante dans un établissement qui n'est pas privé, donc ni catholique, ni chrétien. Vous devez donc faire avec des ados, des enfants qui sont très loin de cette éducation de foi que vous avez reçue ou donnée. Et en même temps, vous, quelque part, vous êtes vous-même tout le temps. Donc vous avez votre foi avec vous aussi à ces moments-là.
Oui, alors vous dites que ces jeunes sont très loin de la foi catholique.
Pour certains, peut-être.
Oui et non. C'est très interconfessionnel. Il y a beaucoup de jeunes d'origine française, sûrement de culture judéo-chrétienne, qui se sont convertis et qui sont devenus musulmans. Donc j'en ai dans l'établissement où j'enseigne. Il y a des personnes qui sont aussi, qui le confessent, qui sont catholiques, croyants. Donc vraiment, les gens parlent sans tabou, les jeunes sont à bout de leur conviction religieuse. Mais c'est vrai que dans l'ensemble... comme c'est la laïcité qui prime, personne n'a le droit d'afficher ni de signes religieux, ni de conviction. Mais je trouve que c'est intéressant de parler avec les événements récents, d'écouter ce qu'ils disent et d'être en témoignage quand même. Dire, moi j'ai une foi et moi je suis admirative, quelle que soit la foi qu'ils ont. Je leur dis, d'avoir une foi, ça donne une éthique, ça donne une morale. Connaissez vos origines, cultivez-vous, soyez proches de l'histoire et sachez... J'essaye de les élever, de les titiller pour qu'ils développent un petit peu d'esprit critique et peut-être de connaissance d'eux-mêmes ou de leur culture au moins.
Est-ce que ça aide d'avoir cette foi quand on traverse des événements qui touchent un peu toute la France comme celui d'Arras il y a quelques temps ?
Personnellement, oui. J'étais extrêmement quand même choquée et triste d'entendre cela. Avec humour, je me suis dit je vais avoir une prime de risque parce que je commence à exercer un métier difficile et dangereux. Ça aide. Ça aide de donner un sens, même si on reste avec nos questionnements tout de même.
Marilyn Chomel, pour terminer cette émission, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin maintenant avec quatre enfants, avec le boulot à la vigne, le travail avec ses élèves et puis cette actualité qui n'est pas toujours drôle, on vient d'en dire quelques mots. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que tous les matins vous allez vous lever avec la même conviction ?
Alors, la même conviction et enthousiasme, blague à part, c'est de prendre mon café. C'est particulièrement un moment privilégié pour moi. Je suis toute seule et c'est extraordinaire. Dans ma petite maison, dans ma petite cuisine, je prends le café tranquillou. Et sinon, plus sérieusement, ce qui me motive... Alors, je me suis beaucoup questionnée sur le sens dernièrement. L'impact du changement climatique en tant que femme de vigneron nous touche tout particulièrement. Je me disais, mais... Que fait-on ? Qu'est-ce que je fais à mon petit niveau pour laisser une terre décente et une espérance à ces jeunes ? Donc je dirais que ce qui me motive, c'est ce que j'ai déjà évoqué avec vous, c'est je pense que je suis sur terre pour développer la connaissance de moi, de m'aimer vraiment. C'est aime ton prochain comme toi-même. C'est d'apprendre à me connaître, à m'aimer sans avoir les chevilles qui enflent, en toute absence de fausse modestie, pour pouvoir être à l'écoute et en empathie avec mon prochain et pour mes élèves de les élever, au sens étymologique du terme, et pour mes enfants également, mon époux, et d'aller vers la vie et de transmettre de la joie à mon humble petit niveau.
Merci beaucoup Marilyn Chomel, vous étiez notre invitée sur RCF. À bientôt, au revoir.
Au revoir, merci.